France Inter.
C'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir. Éric.
Bonsoir Thomas et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, troisième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Au moins 124 morts en Iran depuis vendredi, 14 en Israël. Nous serons en ligne dans les deux pays. D'abord au sud de Tel Aviv où la population est abasourdie depuis qu'elle a reçu la nuit dernière un missile meurtrier. Et puis nous irons à Téhéran où désormais les écoles, les mosquées et les stations de métro font office d'abri pour la population. À la une également ce soir, Emmanuel Macron en visite éclair au Groenland pour redire que ce territoire de glace convoité par Donald Trump n'est pas à vendre. Le départ dans les prochaines heures d'une mission scientifique française pour aller étudier la potentielle contamination radioactive dans les hauts fonds de l'océan Atlantique, là où sont volontairement immergés plus de 200 000 fûts remplis de déchets radioactifs depuis 40 ans. Nous recevrons dans ce journal l'un des chercheurs co-responsables de cette campagne scientifique. De façon beaucoup moins scientifique, nous irons jauger l'état de stress des 533 640 candidats au bac général et technologique à la veille de leurs premières épreuves écrites. Enfin, le temps de ce lundi, Magali Rochereau, ce sera la fin de la séquence pluvieuse.
Oui Eric, l'activité orageuse sera terminée et la semaine qui arrive s'annonce ensoleillée avec des températures en hausse.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Israël a intercepté cet après-midi une nouvelle salve de missiles iraniens sans dégâts particuliers. En revanche, la nuit dernière, les tirs en provenance d'Iran ont fait au moins une dizaine de morts, plus de 300 blessés. Et comme la guerre est aussi une bataille de communication, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussitôt promis de sévères représailles.
Nos pilotes sillonnent le ciel de l'Iran. L'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre de civils, de femmes et d'enfants. Un meurtre prémédité. Nous atteindrons nos objectifs et leur assènerons un coup retentissant. Ils sentiront la force de nos bras.
Et la nuit dernière a donc été particulièrement meurtrière en Israël, notamment à Bat Yam, c'est au sud de Tel Aviv. La chute d'un missile a fait 7 morts. La population reste abasourdie et même parfois critique envers leur premier ministre. Reportage à Bat Yam de Thibault Lefebvre.
3h du matin, un missile frappe de plein fouet un immeuble de 10 étages.
Nous étions dans un abri, on a juste entendu les explosions.
7 morts, dont un garçon de 10 ans, une centaine de blessés. Sous les yeux de Guerra, les secours s'activent pour essayer de retrouver 3 personnes disparues. La frappe sur Bat Yam est la plus meurtrière depuis de la guerre ouverte engagée par Israël contre l'Iran. Et les civils sont en première ligne.
Ce sont des frappes aveugles, ça peut être au centre de Tel Aviv, à Ramat Gan, à Bat Yam, n'importe où.
Tous les petits immeubles de 3 à 4 étages dans un rayon de 300 mètres ont été touchés.
Toutes les fenêtres sont à terre.
L'appartement d'Henri est détruit et pourtant, comme Guerra et une grande majorité d'Israéliens, il soutient la guerre.
C'est le prix à payer. L'Iran est responsable de tous nos problèmes. Nous n'avions pas le choix. C'est un pays qui affirme qu'il va détruire Israël. S'ils ont l'arme nucléaire, c'est un désastre.
Henri veut qu'Israël écrase l'Iran, mais il ne soutient pas pour autant son premier ministre. Benjamin Netanyahou est selon lui responsable du succès actuel, mais il n'oublie pas et il ajoute qu'il est aussi coupable de l'échec à Gaza.
Voilà donc pour ce reportage de Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter en Israël et dans les territoires occupés. 14 morts donc en Israël après 3 jours de conflit et bien plus en Iran. Au moins 128 morts ont péri sous les bombes israéliennes. 900 blessés, ce sont des chiffres rapportés par le quotidien iranien Etmad, citant le ministère de la Santé. 5 morts supplémentaires cet après-midi à Téhéran. À l'instant, Israël dit avoir commencé à frapper des dizaines d'installations de missiles dans l'ouest de l'Iran. Bonsoir Siavosh Kazi.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Téhéran. Conséquence de cette escalade militaire, à partir d'aujourd'hui, les mosquées iraniennes, les stations de métro comme les écoles servent désormais d'abri à la population.
Absolument. Donc le gouvernement a annoncé que ces lieux seront ouverts toute la nuit pour permettre aux gens de s'y rendre en cas de nécessité. Puisque en Iran il n'y a pas d'abri, donc il n'y a pas d'abri. Donc c'est une mesure qui a été donc décidée par le gouvernement. Il y a eu une cinquantaine de frappes à Téhéran cet après-midi, notamment dans des zones résidentielles. Près de chez moi, à une quelques centaines de mètres, un missile est tombé sur une place qui est normalement bondée de monde. Et donc, il y a fauché. Donc, l'explosion qui a suivi a fauché des passants qui se trouvaient là. Dans d'autres quartiers, j'ai eu des témoignages d'habitants qui me disaient que les missiles tombés dans leur quartier avaient provoqué, par exemple, des destructions des fenêtres qui avaient volé en éclats, ou des fenêtres qui avaient tremblé. Donc il y a une crainte très très importante puisque le missile ne vise pas seulement des bâtiments officiels ou des bases militaires ou des centres nucléaires, mais aussi dans des zones résidentielles. Il y a des fois des frappes importantes et avec donc un nombre important de civils qui ont été tués, notamment des enfants. Il y a, selon des dernières informations, une trentaine d'enfants qui ont été tués dans les différentes frappes qui ont été menées depuis vendredi matin sur Téhéran et dans d'autres villes du pays. Donc cette mesure du gouvernement fait suite à cela. Il y a eu aujourd'hui pour la première fois deux explosions dans la ville de Mashhad qui se trouve à la frontière avec l'Afghanistan. Donc c'est la première fois que cette partie de l'Iran est touchée par des violences. Une situation très tendue. Merci. Des habitants de Téhéran, beaucoup d'habitants ont décidé de quitter Téhéran pour se mettre à l'abri à la campagne ou à la mer Caspienne en attendant que de voir comment les choses vont évoluer.
Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, correspondant de France Inter, en direct donc de Téhéran. À l'instant, Israël annonce que l'armée israélienne a eu le chef du renseignement iranien et son adjoint, et on comprend ce que signifie cette conjugaison du verbe avoir. Benjamin Netanyahou annonce que ils ont le chef de renseignement iranien et son adjoint probablement mort. Donc c'est ce qu'ils disent à ce que le Premier ministre dit à la chaîne Fox News. Donald Trump appelle Israël et l'Iran à trouver un accord sur la chaîne ABC. Il a aussi envisagé une possible implication des États-Unis dans ce conflit. Le président américain s'est également dit ouvert à une médiation que conduirait le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes en auraient d'ailleurs parlé au téléphone. Du mauvais temps, du gros temps cet après-midi au Groenland pour l'arrivée d'Emmanuel Macron. Sur place, le président français a critiqué la volonté de Donald Trump d'annexer ce territoire autonome sous tutelle danoise. Il faut dire que cette île de glace, la plus grande du monde, est riche en métaux rares. Donald Trump souhaite avoir la mainmise par tous les moyens, dit-il, y compris militaires. Reportage de notre envoyé spécial au Groenland, Louise Baudet.
Le ciel est bas, mais l'accueil chaleureux sur cette terre arctique où le président français a atterri en début d'après-midi. Au loin, les applaudissements de quelques Groenlandais.
We're getting closer together. C'est important parce que c'est grave avec Donald Trump.
Dès son arrivée, Emmanuel Macron dénonce de nouveau les menaces d'annexion de Donald Trump.
Je pense que c'est pas ce qui se fait entre alliés. Et donc c'est important de montrer qu'il y a un engagement autour de ce territoire dont l'intégrité territoriale doit être respectée.
Direction ensuite la frégate porte-hélicoptère Nilsiul pour une sortie en mer dans le fjord de Nuuk, la capitale. Au loin, les glaciers qui peu à peu disparaissent.
On le voit bien quand on regarde ces images de cette glace qui fond.
Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français pour l'épaule.
La perspective d'un renversement du commerce maritime qui pourrait passer de Suez à ici. Donc là, une autre forme de richesse considérable. Donc c'est un endroit stratégique de tension, forcément, qui intéresse beaucoup de pays.
Les États-Unis, la Russie, mais aussi la Chine, attirés par la nouvelle voie maritime bientôt ouverte. Les appétits de Pékin qui peuvent mettre d'accord l'Europe et l'Amérique trumpiste, estime l'Élysée. D'ailleurs, Donald Trump trouve la visite d'Emmanuel Macron formidable, super, il le lui a dit au téléphone. Pas question de surjouer l'affrontement avec le président américain à quelques heures d'un sommet censé préserver l'unité du G7. Nuuk, au Groenland, Louise Baudet, France Inter.
Et le Canada accueille le G7 dans un contexte très tendu et le président français qui y participe aura donc fait étape au Groenland. C'était Louise Baudet, envoyée spéciale de France Inter au Groenland. Ce sera dans quelques heures. Une mission scientifique française baptisée NOTSUM partira en bateau dans le nord-est de l'océan Atlantique pour étudier une potentielle contamination radioactive dans les hauts fonds à plus de 4000 mètres de profondeur, là où pendant 40 ans, jusqu'en 1990, plusieurs États européens se sont débarrassés de plus de 200 000 fûts remplis de déchets radioactifs. Avec quelles conséquences pour l'environnement 35 ans après? Eh bien, c'est toute la question. Bonsoir Patrick Chardon.
Oui, bonsoir.
Vous êtes co-responsable de cette mission NOTSUM, portée par le CNRS, en collaboration notamment avec l'IFREMER. Vous embarquerez à minuit tout à l'heure du port de Brest. D'abord, qu'y a-t-il précisément dans ces centaines de milliers de fûts?
Alors en fait, ce sont tous les déchets qui ont été générés par le développement de l'industrie du nucléaire dans l'immédiate après-guerre, hein, grosso modo des années 50 jusqu'aux années 80 où ça a commencé à être une pratique polémique. Hein. Donc ce ne sont pas des déchets de très haute activité, hein, ce n'est pas les déchets dont on parle souvent par rapport au site d'enfouissement de Cigéo-Bure. Là, on est plutôt dans des déchets qui ont participé à la mise au point de toutes les technologies associées au nucléaire. Donc on va retrouver principalement des échantillons et des éléments de laboratoire et des choses comme ça qui sont contaminés.
Alors, vous allez d'abord cartographier la zone avec un nouvel engin, hein, un sous-marin autonome. Dernière technologie, c'est quoi exactement ?
Voilà, tout à fait. On va bénéficier pour cette mission du tout nouveau robot sous-marin autonome de la flotte océanographique française qui a été développé en collaboration avec l'IFREMER.
Ulix.
Alors, Ulix, voilà, c'est son petit nom. Ça va être sa première mission scientifique. Il a fait des campagnes de tests jusque-là. Et là, on part vraiment pour pouvoir cartographier la distribution de ces fûts. Il faut savoir qu'on en a 200 000 fûts qui ont été répartis sur à peu près 14 000 km². Et la problématique pour nous, c'est de pouvoir observer aux bons endroits les effets sur l'écosystème.
Et vous ferez des prélèvements, des sédiments environnement, de l'eau également. Vous vous attendez à quel taux de radioactivité ?
Alors, on s'attend pas à des taux absolument extraordinaires, puisqu'à la base, le déclaratif fait qu'on s'attend pas à des déchets hautement actifs. La question qui se pose, c'est effectivement, comme on n'a pas d'inventaire fiable, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, on a des éléments qui ont des périodes plus ou moins longues, hein, des durées de vie qui sont plus ou moins longues, donc certains peuvent toujours être présents et avoir un effet sur l'écosystème. Et surtout, ce qu'on cherche à évaluer, c'est les conséquences sur des décennies de cette pratique sur l'écosystème global, en fait. Hein. On est dans des écosystèmes sous-marins qui sont très, très peu connus.
Vous allez remonter également capturer des poissons et autres animaux marins. S'ils sont contaminés, ça voudrait dire que la radioactivité est entrée dans la chaîne alimentaire.
Voilà, c'est une des questions qui se posent. Hein. L'objectif de la mission, c'est on n'est pas là pour juger ce qui a été fait à ces périodes-là, on est là pour estimer les impacts et pouvoir estimer les conséquences par rapport à l'écosystème. Donc on va regarder tous les compartiments accessibles, je dirais, donc des amphipodes, des petites crevettes, des poissons, pour regarder globalement l'activité qui peut circuler.
Eh bien, merci de vos explications. Patrick Chardon, donc co-responsable de cette mission, cette campagne NOTSUM qui embarquera tout à l'heure à minuit au départ de Brest jusqu'au 11 juillet.
France Inter, Éric Delvaux.
Voilà une dernière soirée que l'on souhaite sereine pour les 533 640 candidats au bac général et technologique. Les épreuves écrites débuteront demain. Les élèves de la voie professionnelle ont déjà passé une partie de leurs examens le mois dernier. Pour les autres, donc, épreuve de philo demain au réveil, 8h. Enfin, on souhaite que le réveil sera bien plus tôt. Les candidats sont-ils stressés? Reportage de Sonia Princé au lycée de Cachan, près de Paris.
Sourire tranquille, allure décontractée chez ces lycéens qui vont passer le bac comme Pierre.
Moi, je me sens plutôt confiant et je pense que le bac, c'est plutôt facile. Le contrôle continu aide aussi.
Les notes au cours des années de première et de terminale comptent pour 40% du résultat final. Alors, Enzo et Enzo ont tous les deux fait leurs calculs.
Avec des simulateurs, où on a juste à rentrer nos notes ou sinon nos moyennes des années précédentes pour voir la note qu'on aura en fait.
Je ne suis pas obligé forcément d'avoir la moyenne partout pour avoir le bac. Je peux même avoir visé une mention.
Marion explique qu'elle est beaucoup moins sous pression que l'an dernier pour le bac de français.
Il y a eu déjà tous les résultats Parcoursup, on a vraiment beaucoup moins de stress. L'année dernière, on était vraiment beaucoup plus tout le temps à la bibliothèque, tout le temps à travailler, alors que là, c'est un peu plus détente.
Finalement, les plus inquiets ne sont pas ceux qu'on croit.
Est-ce que vous stressez un peu pour vos élèves ? Complètement.
Amélie Godon est professeure de physique chimie.
Complètement, parce que c'est l'aboutissement de toute une année de travail. Le fait que tout se passe bien pour nos élèves que l'on a accompagnés durant un an, on sait que pour certains, c'est un peu compliqué. C'est pas évident pour nous aussi.
L'an dernier, près de 96% des candidats en filière générale ont décroché leur bac et 90% en filière technologique.
Un reportage de Sonia Princey. Ce sera également à la une demain, l'ouverture du salon aéronautique du Bourget. Salon de l'air et de l'espace le plus important du monde. 2500 exposants venus d'une cinquantaine de pays. Dans un contexte géopolitique bien tendu, les militaires du monde entier vont donc venir découvrir sur pièce les avions de chasse du futur et aussi les drones de demain, Eric Bigala.
La multiplication des engins de type drone a pris un tour quasi exponentiel. En Ukraine d'abord, on a commencé avec des drones de surveillance. On a ensuite vu des drones d'attaque, capables au début de larguer un simple obus sur une cible, puis de se diriger quasiment seul et de faire exploser un blindé avec une charge embarquée. Et ce n'est pas fini. Les drones et les mesures anti-drones se démultiplient. Il y a des drones anti-drones, des brouilleurs de guidage, des drones filo-guidés pour éviter les brouillages. Il y a 6 mois encore, un industriel nous confiait qu'il fallait 8 semaines entre le moment où l'on concevait un armement de type drone et le moment où la parade contre cet armement était trouvée. Ce qui veut dire qu'il faut constamment innover, produire, et ce à échelle industrielle. L'Ukraine assure pouvoir produire 4,5 millions de drones d'attaque pour 2025. Et il n'y a pas que les Russes ou les Ukrainiens pour les employer. Lors de l'attaque de vendredi sur l'Iran, Israël avait infiltré des équipes de pilotes de drones en Iran même pour cibler les défenses sol-air du pays. Le drone est l'avenir immédiat des guerres et celles-ci, à l'évidence, sont en train de se multiplier.
Eric Biegala, direction de l'actualité internationale à France Inter. Et pour revenir au dossier proche-oriental, l'armée israélienne indique ce soir avoir commencé à frapper des dizaines d'installations de missiles sol-sol dans l'ouest de l'Iran, au troisième jour d'attaques croisées donc entre Israël et la République islamique. La rubrique sport de ce journal. Retenez qu'en cyclisme, Tadej Pogacar a remporté son premier critérium du Dauphiné au terme de la 8e et dernière étape gagnée par un Français, Lenny Martinez. Ça s'est passé sur le plateau du Mont-Cenis en Savoie. La Fédération française de handball décidera demain s'il faudra rejouer ou non le match interrompu hier soir à Créteil en finale de National 1 masculine, match arrêté hier soir après 85 secondes de match quand un arbitre a été blessé. Il a reçu un projectile lancé depuis les bancs du public. En football, dans moins de 2 heures maintenant, le Paris Saint-Germain va commencer à s'attaquer au monde. 2 semaines après son sacre européen en Ligue des Champions, les Parisiens vont donc débuter leur mondial des clubs. C'est la nouvelle compétition de la FIFA organisée aux États-Unis. Le PSG affrontera l'Atlético Madrid. Ce sera à Pasadena, en Californie, au nord de Los Angeles. Retenez enfin en sport que c'est une Ferrari qui a remporté la 93e édition des 24 heures du Mans pour la 3e année consécutive. Nous partons à présent en Corée du Sud, écouter de la K-pop. Là-bas, ce n'est pas seulement de la musique, c'est aussi un phénomène de société, cette musique sud-coréenne qui a ses stars réunies dans des boys bands. Et parmi eux, les membres du groupe BTS. Ils avaient été contraints de faire une pause d'un an pour cause de service militaire obligatoire en Corée du Sud. La parenthèse s'achève et donc c'est un soulagement pour les fans qui peuvent enfin retrouver le boys band sur scène. À Séoul, parmi les fans, reportage de Celio Fioretti.
Ils étaient très nombreux, venus du monde entier, à se rassembler pour le BTS Festival, organisé chaque mois de juin en Corée du Sud, pour célébrer le boys band. L'occasion pour les fans de prendre des photos et d'échanger des souvenirs, à condition de patienter en faisant la queue pour entrer, comme Laetitia et Tiffen.
Actuellement, il est 1h20, ça fait 5 heures à peu près, ça fait 5 heures. Mais ouais, mais en fait, ça en vaut la peine.
Le festival a une saveur toute particulière après 1 an et demi d'absence pour les membres du groupe afin d'effectuer leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Tenu en haleine avec la sortie d'albums enregistrés avant leur départ, le retour est tout de même très attendu par les deux fans.
Ouais, en tout cas, trop contente qu'ils soient de retour là. J'espère quand même qu'ils se reposent un peu parce que... Ouais, ils viennent de... Et puis c'était pas facile pour eux, enfin, de ce qu'ils ont dit, du coup...
Puis j'espère peut-être voir les membres.
Faut prier ça pour voir les 7 ensemble,
c'est jamais.
Photos, échanges et achats de souvenirs, un véritable événement communautaire soldé par un concert exceptionnel. Le groupe sera bel et bien au complet la semaine prochaine avec la fin de service militaire de son dernier membre. La carrière du plus célèbre boys band de K-pop n'est pas prête de s'arrêter. France Inter à Séoul, c'est Yofiori.
Voilà, la K-pop, on aime ou on déteste. Encore un mot de sport, puisqu'en judo à l'instant, le français Johan Benjamin Gaba à Budapest vient d'être sacré champion du monde dans les moins de 73 kilos. Avant le point météo, retenez qu'il ne reste que 6 départements en vigilance aux orages, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort, et le Jura. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Le temps va se calmer pour ce début de semaine.
Oui Eric, à part quelques rares averses sur le relief des Alpes et des Pyrénées, c'est un ciel sec et souvent bien ensoleillé qui s'impose sur le pays à partir de demain, avec quand même quelques nuages en début de journée qui voileront le ciel de la Bretagne à la Normandie et la côte d'Opale et du Mistral dans le sud dès le matin, ressenti jusqu'à assez haut dans la vallée du Rhône avec des pics à 80 km par heure.
Et des températures de nouveau à la hausse.
Oui, demain matin les minimales seront comprises entre 10 à 16 degrés en général du nord au sud et jusqu'à 20 à 22 près de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, Météo France prévoit 22 à 27 degrés sur la moitié nord, 22 à Caen, 24 à Rennes, 25 à Reims, 25 à 29 en général au sud, 27 à Limoges comme à Bordeaux et encore 31 à 36 degrés sur les départements méditerranéens.
C'était Magali Rochereau.